שלום וברכה, חג שמח בעזרת השם, יום ירושלים שמח, עטול עם ישראל, יא הקדוש ברוך הוא לימיהם, יא לביל אל מהם.
תודה רבה הרב, בכבוד הרב, vous êtes, après vous, il y a רב פרטוש, et encore après le רב פרטוש, il y a le רב אבינר pour la fin de cette journée, בכבוד הרב, pour un cours de 45 minutes.
תודה רבה, תודה רבה. Alors, שלום à tous, Pour comprendre des sujets importants dans le judaïsme, il faut élargir notre conscience et notre façon de voir. Il faut tout simplement grandir lorsque nous sommes face à des sujets énormes, comme par exemple celui de Jérusalem. Nous devons élargir notre prise de conscience, notre étude, pour ne pas rester dans la polysémie, c'est-à-dire dans la contraction de l'une des façons de voir, de l'un des sens, et il faut élargir d'une manière large et rester grand, ouvert, lorsqu'il concerne ces notions qui sont tellement grandes comme Jérusalem. Le prophète Jérémie, au chapitre 2, verset 2, lorsqu'il parle de Yerushalayim, il la compare à un être humain. Haloch vekarata beozne Yerushalayim, va et appelle aux oreilles de Yerushalayim en lui disant Ko amar Hashem, ainsi a parlé l'Éternel, Zacharti lach chesed neuraich, je me rappelle de ces premiers moments où nous nous sommes connus et tu étais bonne envers moi, dit l'Éternel, Ahavat kelulotaych, quand tu étais jeune, tu m'as déjà aimé, lechtech acharai bamidbar, et lorsque je t'ai épousé, tu m'as suivi dans le désert, be'eretz lo zeroua, alors que je n'avais rien de concret à t'offrir. Il y a ici une histoire d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Jérusalem. Vous comprenez bien qu'il y a une volonté de confondre la ville de Jérusalem avec le peuple d'Israël. En effet, il y a ici un récit de la sortie d'Égypte. Et le prophète nous dit que c'est Yerushalayim qui était en Égypte. Et lorsque Yerushalayim est sortie d'Égypte, elle a suivi le Créateur dans le désert. Il y a ici quelque chose de très important. Il y a une volonté de brouiller presque les notions entre les identités humaines et la ville de Yerushalayim. On a une tendance à lui parler avec un genre humain, comme si on parlait à un être qui respire, qui a conscience de quelque chose et non plus à une ville inerte, inanimée, qui n'est juste que des constructions. D'ailleurs, le prophète Isaïe, lui aussi, au chapitre 52, nous dit, en parlant de Yerushalayim, il lui demande, « Ouri, ouri, réveille-toi, réveille-toi, livshi uzech, Sion, habille-toi de tes vêtements de puissance. » Sion, Livshi bigdei tifarter, habite-toi de ces vêtements de tiferet, c'est-à-dire de l'équilibre. Yerushalayim irakodesh, toi la ville du Saint béni soit-il, Yerushalayim. Encore une fois, une tendance de la prophétie et donc de la parole divine de nous transmettre un message concernant Yerushalayim, comme s'il s'agissait d'un être humain. Et on demande à Yerushalayim de se réveiller de sa torpeur, de se réveiller de son sommeil. Qu'est-ce que toutes ces expressions viennent nous enseigner? D'abord, nous sommes en train de commémorer notre retour après 2000 ans, où nous n'avions pas la ville de Yerushalayim, et après tous les exils, nous sommes revenus à cette ville en 1967. Il s'agit ici d'un miracle de premier ordre, d'une forme de changement de situation, d'une ère nouvelle qui vient en réalité ouvrir le monde à la dernière des phases, celle des retrouvailles avec le centre même de gravité de l'univers tout entier. En effet, les Chachamim nous disent que c'est sur ce point culminant de Yerushalayim, mais encore plus précisément sur le Har HaBayit, et plus précisément sur la pierre qu'on appelle Even HaShtia, la pierre par laquelle la matière première est apparue, eh bien c'est à ce point-là que nous faisons référence. Nous avons les retrouvailles avec ce point, comme si le monde s'était éloigné de son centre de gravité premier, et tout doucement l'humanité revient, comme par des ceintures larges qui se rétrécissent, qui convergent vers le centre, en envoyant le représentant de l'humanité, le peuple d'Israël. Cela ressemble à ce que nous faisons Yom HaKippourim, nous, dans le peuple d'Israël, où nous envoyons un messager qui va représenter tout le peuple d'Israël, et encore une fois toute l'humanité, pour pénétrer dans le Saint des Saints, encore une fois, les retrouvailles avec le début, les retrouvailles avec l'essence de départ. Cette mémoire de départ est très importante dans tous les domaines. C'est comme si on nous disait, quand tu t'es éloigné d'un sujet quelconque et tu vois que tu es en train de sortir de la voie, tu as dévoyé, eh bien, fais en sorte de retrouver ce qui te manque, parce que c'est en revenant vers ce centre névralgique de toute la création du monde que tu vas retrouver en fait les notions qui y sont gravées. Qu'est-ce qui peut bien être gravé sur la prière par laquelle le monde fut créé? La première pierre, Even HaShtia, les tashtiot de ce monde, c'est-à-dire les infrastructures sur lesquelles le monde fut bâti, se trouvent sur cette pierre. Shemimena hushtata olam, le monde entier tient sur cette pierre, sur ce caillou. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement au niveau géographique, mais tout de même, il ne faut pas oublier que c'est le premier point matière sorti de l'antimatière. Il faut comprendre que la première transformation, la première des créations entre ce qu'il y avait avant, dans l'ordre de l'infini, béni soit-il, et le passage à la matière, à l'apparition de la matière, eh bien, c'est ce point qui est le premier point dans lequel, j'allais dire, l'infini est devenu fini, ou s'est transformé, s'est révélé dans le monde fini plus précisément. Bien entendu, il s'agit ici de quelque chose d'extrêmement important. Non seulement parce que c'est le premier point de matière, de l'apparition de la matière première, mais avant tout, c'est le passage, c'est le canal par lequel l'infini décide de créer ce monde et de devenir une puissance qui se révèle dans la matière. Ce n'est pas anodin. Cette matière est censée en réalité être capable de supporter, dans tous les sens du terme, cette lumière infinie et la transformer quelque part en vêtement, donner un vêtement pour cette lumière infinie. Donc le premier vêtement de l'infini, c'est Yerushalayim. Et au centre de Yerushalayim, cette pierre qui se trouve à l'endroit même du Beit HaMikdash où, plus tard dans l'histoire, le tabernacle, le Mizbeach et le Aaron va être posé avec les Luchot, avec les premières et les deuxièmes tables données au Mont Sinaï. Ce verset que je viens de vous citer, notamment de Isaïe 52, « Réveille-toi, Yerushalayim, et habille-toi de tes vêtements », va dans le même sens. Car lorsqu'on parle de vêtements qui sont donnés ou nécessaires à la ville de Yerushalayim, on parle en réalité de tout ce qui est capable d'appréhender des valeurs intouchables, impalpables. Pourquoi donner un vêtement ? Tout simplement pour rendre la chose accessible. Toute chose dans ce monde, dans notre monde, dans le monde de la création qui n'est pas habillée, n'apparaît pas. Les choses dans notre monde doivent être habillées pour se montrer. S'il n'y a pas d'ustensile, s'il n'y a pas de clé, s'il n'y a pas de vêtements, s'il n'y a pas de midot, de mesure, eh bien, rien ne se révèle. C'est un paradoxe qui est relatif à notre monde. Pour se dévoiler, pour dévoiler quelque chose, il faut cacher la chose en question. Commencez par les lettres de la Torah. Si les lettres de la Torah n'étaient pas peintes en noir, si elles n'étaient pas habillées par cette encre noire, eh bien, vous n'aurez rien vu. Ça veut dire que dès qu'une puissance veut se manifester et les lettres font partie de cette manifestation divine dans notre monde, eh bien, dès que ça se passe, il faut immédiatement habiller l'énergie en question, ne serait-ce que par de l'encre, pour donner un vêtement à la descente, à la propagation de la pensée divine dans notre réalité. Là aussi, le peuple d'Israël se doit de se vêtir des vêtements pour donner la puissance à Tzion et à Yerushalayim. Tzion, en réalité, c'est le secret du retour physique des enfants d'Israël à leur terre, et Yerushalayim, c'est le dévoilement de cette infrastructure qui va devenir un royaume. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de Yerushalayim, on parle d'une ville qui est capable d'être les deux. Et vous le dites dans le Lecha Dodi, Mikdash Melech, Yair Melucha, Kumi, Tsei Mitoch HaHafecha, Rav Lach Shevet Be'emek HaBacha, Vehu Yachmol Alayich Chemla, Lechadodi Likrat Kala Pene Shabbat Nekabela. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on est en train de parler à Yerushalayim en la considérant comme la ville double. Mikdash Melech, elle est la ville du Mikdash, du Kodesh, du Saint, béni soit-il. Mais en même temps, Ir Melucha, c'est une ville à la connotation politique où on peut fonder un royaume, un gouvernement, et il y a ici quelque chose de l'ordre de l'application réelle dans notre monde humain, avec les valeurs de ce monde, de ces valeurs du Kodesh. Et celui qui a écrit le Lecha Dodi comprend très bien que Yerushalayim a les deux aspects. Mikdash Melech Ir Melucha. C'est une ville qui est capable, et là je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure concernant la pierre qui se trouve sous le dôme du rocher, le rocher en question, le rocher qui était le début de la matière même de la création du monde. Et aujourd'hui, les musulmans ont construit un dôme par-dessus ce rocher. Eh bien, cette matière première, ou cette première matière, comme vous voulez, est en réalité capable de faire en sorte qu'il y ait un lien entre les valeurs du Kodesh, qu'on appelle Mikdash, Mikdash Melech, Ir Melucha et les infrastructures politiques inhérentes à notre monde. Donc Yerushalayim se voit comme étant une ville double qui est capable de jouer les deux rôles. Elle n'est pas seulement extérieure, superficielle, et elle n'est pas seulement une ville de la spiritualité appartenant à l'infini, béni soit-il. Elle est capable d'être les deux en même temps. C'est un trait d'union entre le ciel et la terre, entre les valeurs idéales de l'infini, telles que Dieu les a pensées, et la révélation de ces valeurs dans ce monde ici-bas. C'est pourquoi, d'ailleurs, Yerushalayim a deux noms. Elle est au pluriel. Pourquoi ne pas dire Jérusalem comme en français ? Mais Yerushalayim, c'est comme Shnaim. Il y en a deux. C'est la ville de la pluralité. C'est la ville où l'unité divine est devenue plurielle dans ce monde. Où le un d'en haut s'est habillé dans le deux d'en bas. C'est où le Aleph initial est devenu un Bet de Bereshit. Et c'est pourquoi Yerushalayim s'appelle au pluriel Yerushalayim, parce qu'il y a la Jérusalem des valeurs d'en haut, la Jérusalem des idéaux et la Jérusalem d'en bas, celle de la révélation, de la manifestation, de la cristallisation de tous ces idéaux. Notre rôle est donc clair. Nous devons faire en sorte que la Jérusalem du modèle initial, la Jérusalem étalon, se reflète comme un miroir parfait sur terre. Et la Jérusalem d'en bas, celle que nous pouvons visiter, traverser, nous balader dans ses rues, eh bien, c'est un reflet de ce qui se passe dans la Jérusalem des idéaux les plus importants. Considérez ce que je suis en train de vous dire comme l'âme de la ville et le corps de la ville. Vous comprenez bien que nous avons tous en soi une Jérusalem d'en haut et une Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en haut, ce sont toutes nos valeurs initiales codées dans notre ADN, celles qu'Akadosh Baruch Hu nous a prévu de porter en nous, de notre vivant. Et la Jérusalem d'en bas, c'est notre cristallisation, c'est notre mise en activité de toutes ces puissances qui sont à l'intérieur de nous, qui demandent, qui attendent d'être activées. Car tout ce qu'Akadosh Baruch Hu met dans la Jérusalem d'en haut est statique, ne bouge pas. Tout ce qui se trouve dans la Jérusalem d'en haut demande une activation dans la Jérusalem d'en bas. Et lorsque j'applique et je vis et je traduis les valeurs infinies dans mon monde, dans ma vie, eh bien, je fais un acte qu'on appelle en hébreu « Emouna ». Je réalise, je certifie ce qui se trouve à l'intérieur de cette Jérusalem d'en haut, de cette Jérusalem des pensées. Et ça, c'est le réveil que le prophète demande à Yerushalayim, de se réveiller de son état de torpeur, d'exil, où, justement, en exil, il est impossible de traduire ses valeurs, car il faut le lieu nécessaire pour traduire ses valeurs infinies. Ce n'est pas nous qui les avons choisies. C'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi ses frontières et ce lieu bien précis lorsqu'il a construit le monde. Le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a construit une soukha sur la pierre en question dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et il a dit « Yehi ratzon milefanai shebamakom haze evne et beiti » que dans ce lieu, je construirai ma future maison. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous indique déjà l'endroit. Bien que l'endroit reste flou volontairement dans la Torah, il y a quand même un élément extraordinaire qui nous pousse vers ce degré. Il y a donc quelque chose qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que Jérusalem ? Je vais poser la question différemment parce qu'elle nécessite une autre formulation de la question. Qui est Jérusalem ? Je suis en train de vous parler d'un être avec une conscience, avec une intelligence propre. Eh bien, c'est incroyable, mais si vous cherchez dans l'histoire, ou dans toute la littérature juive, ou bien même dans vos sentiments, vous n'allez pas trouver véritablement Yerushalayim, en tout cas pas d'une manière claire. Les enfants d'Israël, eux, doivent aller rechercher toutes les références dans la Torah. C'est pourquoi nous avons reçu la Torah. Le seul problème, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est que dans la Torah, nous ne trouvons pas Yerushalayim, ni son nom, ni son lieu. Il faut donc un travail énorme pour y arriver, pour retrouver la pierre en question par laquelle la matière fut créée. Aujourd'hui, on connaît le lieu, mais pour arriver à ce lieu, il fallait un travail de prophétie énorme. Dans la Torah, dans le livre de Devarim, au chapitre 12, il est dit « El hamakom asher yifrar Hashem » « Je veux que tu ailles, que tu arrives à l'endroit que Dieu choisira. »« Mikol shiftechem » Pourquoi faire ?« La sum et shemo sham » Pour que son nom soit placé sur cet endroit géographique bien précis. « Les shiknot idreshu » Vous allez faire en sorte de demander, d'exiger de retrouver ce lieu où bata shama, et tu y reviendras. Tu iras là-bas. D'après ce verset de la Torah, je comprends que le nom de Dieu, donc ce dévoilement de sa volonté, de son désir, ne peut pas se faire hors de Jérusalem et de ce lieu. C'est Dieu qui choisit le lieu et il nous demande d'aller là-bas pour retrouver son nom. C'est ce qu'on appelle un kiddush Hashem. C'est la sanctification de son nom. Si j'élargis un petit peu ma recherche aux frontières de la terre d'Israël cette fois-ci, non plus seulement la ville, mais la terre tout entière, eh bien, Abraham Avinu, lorsqu'il reçoit l'ordre ou qu'il entend cette prophétie de Lech Lecha, là-bas aussi, les choses ne sont pas du tout claires. El Haaretz Asher Areka, vers la terre que je t'indiquerai, dans une traduction simple. Autrement dit, commence à marcher et même si tu ne comprends pas, tu ne sais pas dans quelle direction avancer, je vais le dire en hébreu, torkede halicha teda. En marchant vers, tu comprendras, tu entendras, et tout doucement la chose va venir et s'installer dans ta conscience. Un autre exemple, dans la Agedat Titzrak, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, où est-ce que tu dois aller? Al achad heharim, achad heharim. Asher Omar Elecha. Il faisait. C'est où? L'une des montagnes, ou plus exactement, la montagne une. Mais il ne lui dit pas où c'est. Tu recevras l'information en marchant. Rabotai, je suis en train de vous donner le secret du peuple d'Israël tout entier. Ce n'est qu'en marchant, qu'en avançant, sans se poser trop de questions, et chaque fois que je me pose une question, je m'arrête, ça ne marche pas. Tu dois marcher et poser des questions. C'est incroyable parce que le Zohar HaKadosh, c'est toujours comme ça. Rabbi Shimon ve Rabbi Yossi hayu olchim. Mi tzfat le tzipori. Pourquoi le Zohar me dit qu'ils marchaient? Parce qu'ils étudiaient la Torah en marchant. Jamais tu les voyais installés. Et je vais vous révéler un secret. si vous voulez qu'un message passe, et surtout à nos enfants, quand je veux faire passer un message à mes enfants, je ne dois pas m'asseoir avec eux, ni à table, ni dans un banc. Je dois marcher et parler. Il y a quelque chose dans cette marche, que je dirais même une démarche, qui est très très importante pour faire passer un message. Je reprends les références dans Shemot 23. Veshalachti malach lefanecha lishmorcha baderech ulehavi'acha el hamakom asher hachinoti. Voilà, j'envoie un ange devant toi et je te conduirai vers le lieu que j'ai prévu, que j'ai préparé. Tu ne peux pas nous dire où c'est. Il n'y a aucun verset qui nous dit clairement où se trouve ce lieu. C'est terriblement israélien. C'est exactement comme quand tu demandes ta rue à un Israélien. Smoch alai, tamshich yachar, 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 ad asof, sham timtza. Jamais on t'indique où c'est. Marche, roule, yachar, yachar, yachar. Toi, tu roules, yachar, au bout, il y a un immeuble. Et tu dois tourner à droite ou à gauche. Débrouille-toi maintenant. Akadash Baruch Hu nous parle comme un Israélien. C'est incroyable. Malgré tout ce que je suis en train de vous dire, il y a quand même une petite allusion dans la Torah. Cette allusion s'habille dans deux personnages. Le premier, c'est Malkitzedek, et le deuxième, c'est Abraham. Malkitzedek s'appelle dans la Torah, dans Bereshit 14, Melech Shalem. C'est le roi de Salem. Pas les sorcières de Salem, c'est le roi de Salem. Et Ramban, Nachmanide, sur le même verset, nous dit Shalem hi Yerushalayim. Sache-le, que Shalem, c'est Yerushalayim. Quelle est l'explication de nos sages? Malkitzedek a appelé cet endroit Shalem et Abraham a appelé cet endroit Adonai Yera'e. C'est-à-dire qu'il y a un degré où Dieu se dévoile Yera'e. Donc Dieu se fait voir, entre guillemets, dans ce lieu. Et ce lieu est représenté comme la Shlemout, comme le Shalem. À tel point que le Midrash, dans Midrash Rabbah 36, va nous dire que c'est comme ça qu'on a composé le nom de Yerushalayim. Il y a la Yir'a et la Shlemout. Yir'a veshalem, Yerushalayim. Autrement dit, le Shalem de Malkitzedek représente la qualité, j'allais dire, universelle. Shlemut ha'enoshut. C'est-à-dire que chaque nation du monde, et on le voit aujourd'hui, se reconnaît dans Jérusalem. Et qu'est-ce que c'est que la Yir'a? Eh bien, ça, c'est la spécificité d'Israël seulement à l'intérieur de tout cet universel cosmique et mondial au niveau de l'humanité tout entière. Dans le côté universel qui s'appelle Shalem, il n'y a pas de droite. C'est un cercle qui est à la même distance du centre. Donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu zan et akol. La nourriture du monde entier, de l'univers tout entier et de l'humanité tout entière se fait à égalité à partir d'un point central, Yerushalayim, Shalem. Le deuxième degré, la Yir'a, ça c'est meyuchad, c'est spécifique au peuple d'Israël. Là-bas, on retrouve le yosher, c'est-à-dire tu recevras exactement ce que tu mérites de recevoir. Pas un gramme de plus et pas un gramme de moins. C'est ce qu'on appelle anhagat hamishpat. Et ça, c'est référence Israël seulement. Donc cette ville, encore une fois, je retrouve une pluralité. Non seulement elle est Mikdash, Melech, Ir, Melucha, mais maintenant je vois que de Yerushalayim va sortir la lumière pour Israël et pour le monde entier. Et en même temps, il faut que le peuple d'Israël soit dirigeant, entre guillemets, de cette ville de Yerushalayim. Pour que Yerushalayim puisse émerger de sa lumière et donner, partager sa lumière, il faut que le peuple d'Israël domine cette ville. Vous êtes les responsables de cette ville. Et c'est ainsi que le monde recevra sa lumière. Donc il y a ici une exigence que nous soyons les maîtres de Yerushalayim. Et il faut remettre les choses à leur place. Il faut arrêter d'être comme on est aujourd'hui, dans une forme de faiblesse, où tous les soirs, il y a n'importe quoi. Aucune structure qui maintient l'ordre. Ce n'est pas possible. Le peuple d'Israël doit montrer sa puissance et sa souveraineté sur Yerushalayim. On accepte tout le monde, à une seule condition, dit la halakha, qu'aucun de ces personnages ne veuille prendre la souveraineté au peuple juif et être souverain lui-même. Ça n'existe pas. Alors la question qui se pose, pourquoi la Torah ne parle pas clairement de Yerushalayim quand elle parle de Yerushalayim, de cet endroit, de la même manière la terre d'Israël? Pourquoi s'appelle-t-elle Eretz Knaan? Pourquoi on ne dit pas clairement? Pourquoi je ne sais pas où c'est? Pourquoi il faut marcher pour découvrir les choses au fur et à mesure? La réponse est à l'intérieur même de la question. Tout simplement parce que Yerushalayim et Eretz Israël n'est pas quelque chose de concevable. Je ne peux pas la définir, dit Akadosh Baruch Hu, elle est indéfinissable dans votre cerveau humain, c'est impossible à comprendre. À tel point que le Rav Kook, Alav HaShalom, dans son premier livre, Oroth, en parlant d'Eretz Israël, nous dit dès le début, Eretz Israël einena davar chitzoni. C'est pas qu'il est en train de nous dire que ce n'est pas seulement. Il dit non. Einena davar chitzoni. Il n'y a pas d'extériorité. Même ce que toi tu crois être une terre comme les autres, un morceau de caillou, un morceau de terre, ce n'est pas extérieur. C'est une échamin. Quand tu touches la terre de Yerushalayim, tu prends dans ta main de la Neshama. Einena davar chitzoni. Alors comment tu peux comprendre? Beshum haskala rationalit enoshit, comme ça dit le Rav Kook. Aucun rationnel humain ne peut comprendre Yerushalayim ni Eretz Israël. Alors comment? Ela beruach Hashem ala uma bichlaluta. C'est un souffle qui confond volontairement, et là vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on confond volontairement la terre d'Israël, Yerushalayim, et le peuple d'Israël. Je ne sais plus si je parle d'une femme, je ne sais plus si je parle d'un être humain, ou si je parle d'un morceau de terre. Je ne comprends pas. Mais la Torah te dit, il ne faut pas comprendre parce que tu ne peux pas comprendre. Il y a ici un désir volontaire, l'étachtech et amoussagim, de brouiller toutes ces notions, tous ces concepts pour que tu comprennes bien qu'il n'y a pas de définition. Alors comment je retrouve? Réponse, en avançant. Tu avances et les choses se font voir, arrivent à toi, descendent vers toi, se révèlent à toi, se donnent à toi. Mais tu ne peux pas, au départ, vouloir ficeler ce lieu ni tout ce que tu y feras. Je vais vous donner un exemple concret. Si tu veux faire ton alia et tu crois que tu vas tout régler à partir de là-bas avant de venir ici, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil. Ça ne marche pas. Ce n'est pas logique dans ta logique, comme si tu voyageais de Paris à Nice pour t'installer dans une autre ville. Ici, tu fais un geste, mais tu dois laisser presque 90% de tout ce qui va se passer entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois te soumettre à quelque chose qui te dépasse. Et tant que tu n'accepteras pas de lâcher prise, eh bien, tu ne pourras pas réussir cette alia Chas v'Shalom. Et c'est pourquoi la terre s'appelle la terre de la soumission. Eretz Knaan, imatalon ichna, lo tatzliach. Si tu ne lâches pas prise dans ce pays, dans cette ville de Yerushalayim, tu ne pourras pas concevoir, parce qu'il n'y a rien de cérébral, rationnel à concevoir. C'est divin. Einena davar chitzoni. Et le Rav Kook va continuer là-bas dans Oroth et va dire que c'est seulement par l'étude des secrets de la Torah que tu pourras commencer un tout petit peu à recevoir des étincelles de lumière de ce pays et de cette ville. Il y a donc ici quelque chose d'extrêmement précis dans le fait de rester imprécis. Ce tishtouche en hébreu est volontaire. Ze tishtouche mechouvan, mevukar. Yerushalayim, donc, est un lieu, est un concept satoum, bouché. Comme si on disait que Yerushalayim était intouchable. En tout cas, pas à l'homme. Rappelez-vous ce qu'on dit du Kohen Gadol lorsqu'il rentre au sein des saints, Yom HaKippurim. Velo iye Adam imo. Même l'homme lui-même ne sera pas avec lui quand il entrera dans le sein des saints. Je traduis avec des mots simples. Même le Kohen Gadol qui entre dans le sein des saints n'est plus un homme au moment où il entre dans le sein des saints. Il doit perdre cette qualité d'homme limitée. Il doit devenir un souffle pour représenter en fait la nation tout entière, l'âme de la nation. S'il reste un homme, il ne peut pas réussir à l'intérieur de ce secret du Saint des Saints. Keilu lomar, comme si on vient dire que Yerushalayim est au-dessus de la conscience humaine étriquée, limitée. Rabbi Moshe Cordovero, alav shalom, nous dit que en tikun haneshama began eden la adam, de la même manière que la neshama se répare dans le gan eden, car tikun ashrina beyerushalayim, de la même manière la shrina subit un tikun à Yerushalayim. Tikun veut dire on la complète, on lui rajoute ce qui lui manque. Vous comprenez qu'on n'a même pas commencé à parler réellement parce qu'on ne peut pas limiter par nos paroles ce concept Yerushalayim. Elle a donc la crainte, et ça c'est inhérent au peuple d'Israël, parce que c'est grâce à la crainte que tu peux voir quelque chose. Et c'est pourquoi que le mot « yir'a » qui veut dire la crainte, c'est les mêmes lettres que « yir'e », tu verras. Celui qui n'a pas de crainte d'Akadosh Baruch Hu ne peut rien voir, ne recevra pas de vision profonde de ce que représente la volonté de Dieu. Tu la vois en sachant que tu ne vois pas tout. Parce qu'il y a Yerushalayim shel Ma'ala, que tu ne vois pas. Fais attention. Et le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero continue. Yerushalayim hi lev ha'olam ubo mishkan ha'neshama. Yerushalayim est le cœur battant du monde, de l'humanité et d'une manière générale de tout ce qui est matière. Et je ne parle pas seulement de la planète Terre, je parle de toutes les planètes. Tout a commencé par ce point. Et c'est dans ce point que se trouve la Neshama du monde, qui est en même temps la Neshama d'Israël. Parce que Israël s'élève à Oumot, c'est pareil, dans le Kuzari. Donc en réalité, c'est pour ça qu'il est aussi difficile de partager Jérusalem, même dans les tribus. Au moment où Akadosh Baruch Hu donnait les tribus, chaque tribu devait avoir une place. Eh bien, regardez ce que dit la Gemara dans le traité de Megillah à la page 26. Yerushalayim lo nitralka lishvatim. Jérusalem n'a pas été partagée en tribus. D'Etania, comme nous enseigne la Gemara dans la Tosef Talaba de Negaim, en maskirim. Batim b'Yerushalayim ipne she'einam shelahem. Tu ne peux même pas louer à quelqu'un une maison à Jérusalem parce que ça ne t'appartient pas. Comment tu peux louer quelque chose qui ne t'appartient pas? Ça veut dire quand il y avait les Olé Regel qui montaient à Jérusalem pendant Pessah, Shavuot et Sukkot, tu n'avais pas le droit de prendre de l'argent. Donne-moi 1000 shekels et tu dors chez moi ce soir. Ça n'existe pas, tu n'as pas le droit. Je peux venir avec mon sac de couchage et dormir chez toi sans rien demander, c'est pas chez toi. C'est terrible. Vous comprenez qu'en réalité, il y a ici quelque chose qui nous dépasse complètement. En tout cas, notre petite vision égoïste. C'est quelque chose qui est complètement en dehors de notre façon d'appréhender les choses. On arrive à une conclusion, et c'est bientôt la fin du cours, je suis en train de voir, je n'ai même pas commencé, mais je crois que je dois arrêter, c'est à 40, je crois que je dois arrêter.
Attends, vous avez encore 10 minutes, Arabe.
8 minutes, d'accord. Je vais résumer, je vais avancer un petit peu. J'ai l'impression, je vous partage mon impression, okay, que toutes les grandes choses de l'histoire, on ne peut pas les comprendre tout de suite. Il faut avancer et au fur et à mesure qu'on avance dans notre histoire, on les comprend. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses que tu peux ficeler dans ta petite cervelle. Ça n'existe pas. Avance. Même le Rambam nous dit que Yerushalayim kula mikdash. Ça veut dire que dans le Kodesh, il n'y a pas de partage. Tu ne peux pas partager le Kodesh. C'est une seule et même unité. C'est l'antithèse même de la Hafrada. Le Kodesh, c'est l'unité. Yerushalayim est tout entière Torah. À tel point que même au niveau de la halakha. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire nefilat apaim quand on fait tachanoun. Chatati, aviti, pashati, tatati, tatata. Ken, avinu, pashanu, tatati. Après, tu fais nefilat apaim. Les Ashkenazes mettent la main comme ça et ils font une prière. Eh bien, normalement, selon la halakha, tu n'as pas le droit de faire nefilat apaim dans un lieu où il n'y a pas de sefer Torah. Par exemple, tu vas prier chez quelqu'un. Il a perdu quelqu'un de sa famille, ou tu vas prier dans sa maison, et il n'y a pas de Sefer Torah, tu n'as pas le droit de faire Nefilat HaPaim. Alors qu'à Yerushalayim, tu peux faire Nefilat HaPaim partout. Pourquoi? Parce que Yerushalayim, tout entière, c'est Torah. Il n'y a pas que la Torah est chez lui ou chez toi. Yerushalayim kula Torah. Maintenant, on peut comprendre un tout petit peu les paroles de la Gemara dans Yerushalmi Chagiga, Perek Gimel. Keir shechubra la yachdav. Tout le monde dit cette expression Yerushalayim habenuya, Keir shechubra la yachdav. Qui a écrit ce verset? David Amelech. C'est Teilim 122. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Keir Shechubra Layardav nous disent les Chachamim dans la Gemara que je viens de vous citer dans Yerushalmi Chagiga, Pergimel, Sheosa et Kol Israël Chaverim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fait tout Israël Chaverim? Ça veut dire que quand tu montes pour les trois fêtes, il n'y a plus de tzaddik, de rachat, de benoni, tu ne sais même plus. Tout le monde est considéré comme un tzaddik. On est tous au même niveau. On est tous mes choubarim, on est tous mes koucharim, on est tous mes ouchadim. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hevdel entre un talmid racham et un ignorant, un ama aretz, parce que tout le monde est ensemble quand on monte à Yerushalayim. Regardez cette puissance. Ça veut dire que même les différences sont dans un tichetouche. On amenuise toutes les différences. Il n'y a plus de différence entre nous. Nous sommes tous pareils. Parce que Yerushalayim est tellement dans l'unité qu'elle nous rend comme ça. Alors, d'après tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, et vous comprenez bien que c'est énorme, que le sujet est tellement grand qu'on ne peut pas le saucissonner. Yerushalayim est une ville qui a une âme et un corps. Et c'est pourquoi, même si tu touches le corps, tu n'as pas touché l'âme. Il faut savoir parler à l'âme et au corps de Yerushalayim. Jamais on a compris Yerushalayim, ni du temps de Yehoshua bin Nun, ni du temps de David Amelech, ni du temps de Ezra et Nehemia, ni de nos jours. C'est quelque chose qui nous glisse entre les mains. Pour comprendre un tout petit peu, pour ne pas vous laisser dans l'espace, qui est Jérusalem, je ne dis pas qu'est-ce que c'est. Je ne parle pas de Mahi, je parle de Mihi Yerushalayim. C'est une identité. J'ai l'impression, à mon humble avis, qu'il faut lui ressembler. Si tu ressembles à Yerushalayim, tu peux un tout petit peu avoir quelque chose d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire ressembler à Yerushalayim? Eh bien, devenir large comme Yerushalayim. Ne plus voir les détails seulement dans chaque élément. Être dans une émouna ouverte, grandiose. Ne pas se focaliser dans des détails. Ne pas chercher sans arrêt des responsables, comme on a fait pour Méron. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni chez les hommes. Arrête, tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. La seule chose que tu dois faire, c'est élargir ta émouna, c'est tout. Il faut voir, être capable de voir à Yerushalayim le passé, le présent et le futur. Il y a une mitzvah d'étudier l'histoire. Binushnot dor vador, c'est une mitzvah, Dvarim lamed bet. Pour comprendre, il faut en réalité voir le film dans son entité et non pas seulement des extraits du lancement du film. Yerushalayim demande une vision complète. Et alors tu peux arriver à ce qui est écrit dans Tehilim 143, Malchutra Malchut Kol Olamim ou Memshaltecha Bechol Dor. Vado, ta royauté à Kadosh Baruch Hu est une royauté sur tous les mondes qui existent. Et ta Memshala, ton gouvernement, sera aussi un gouvernement de toutes les générations. Yiratzon, que nous puissions, comme nous sommes revenus le 28 Iyar, Chodesh Arefoua, le mois de Iyar, c'est le mois de la Refoua, on est encore dans le mois de Iyar. Ça veut dire que c'est la refoua du peuple d'Israël de 2000 ans d'exil. On est sorti des tombeaux, comme dit le Gaon de Vilna, dans Sifra d'Etzniuta. Yatsanu migaluta kever. Nous sommes sortis des tombeaux de nos exils pour revenir à Yerushalayim et subir Triat Hametim. יהי רצון שנזכה כולנו להיות חיים בעוצמות. אורי, אורי, לבשי בגדי תפארתך עמי, רוויבו מס פרארי מס סור, אביאבו דה וטמן דה לה פויסאנס. הקדוש ברוך הוא veut un peuple puissant et fort qui est sûr et certain de sa direction dans la vie. תודה רבה.
תודה רבה רב יואל, תודה רבה à tous. Si vous avez des questions, il y a une minute, Araf, si vous avez une minute, le temps que le rapporteur arrive.
Il n'y a pas de souci, je suis là.
Et si vous avez des questions, les amis?
Bravo, bravo.
Toda rabba.
Raviel, noten la nukor.
Toda. Be'ezrat Hashem, Yerushalayim notenet lekula nukor.
Amen.
HaKadosh Baruch Hu be'ezrat Hashem yamshich le'arot lanu et ha'shutafut shelo ba'historia shelanu. Ze kol kach barur.
זה ברור, ברור.
ולא לשכוח, לא לשכוח לומר הלל עם ברכה, בלי לפחד ולהיות בשמחה גדולה.
אמן. כבוד הרב יואל, כבוד הרב יואל.
אני שומע, כן.
נלי, אני רוצה להגיד גמטריה שמתוקי. זה עלינו לשבר לאדון הכל, גמטריה, יום ירושלים.
עלינו לשבח בגמטריה יום ירושלים.
תודה רבה רב פרטוש, ביאן דריבה, מרסי רב יואל, חג שמח,
חג שמח,
ובעזרת השם שנה הבאה בירושלים
הבנויה בבית המקדש.
אמן.